Découvrir le vin bio à vélo des Alpes au Caucase avec Michael Olivon.
Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cette petite conférence qu'on m'a demandé de faire pour parler des vins bio, bien sûr aussi de la viticulture bio et ben voilà de mon expérience parce que donc j'ai fait un petit voyage où l'idée était à travers tous les vignobles qui sont soit en montagne, et je vous expliquerai pourquoi le choix de la montagne, ou qui sont en forte pente, bah finalement, le bio avait tout son intérêt et avait tout son sens. Donc, comme vous l'avez dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire un petit geste de la main, comme ça je vous transmettrai le micro. C'est pas l'idée n'est pas que je parle pendant 45 minutes, mais bien qu'il y ait un échange. Et si vous avez des questions, des interrogations ou des choses que je n'ai pas abordées et que vous souhaitez savoir sur la vigne, sur la vinification bio, le vin bio, bah, n'hésitez pas à me faire un petit signe. Donc, je ferai une petite présentation un peu générale de moi-même, de pour qui je travaille. Et puis de ce que c'est que le vin bio, de ce que c'est que la viticulture bio. Et puis j'enchaînerai un petit peu sur mon voyage et je finirai par le témoignage d'un vigneron qui est juste avec nous là et qui est un vigneron bio des Côtes-du-Rhône, donc sur l'appellation Saint-Joseph et Condrieux, que j'ai eu la chance de rencontrer pendant mon voyage. Et voilà, donc ce sera l'occasion d'avoir un témoignage de quelqu'un qui pratique la viticulture bio depuis longtemps. Et il vous expliquera un petit peu bah voilà, quelle a été sa démarche, pourquoi lui il s'est engagé dans cette certification, pourquoi lui il est en agriculture bio et où est-ce qu'il trouve du sens à son travail. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Bon, ok. Donc je m'appelle Michael, je travaille à l'ARDAP qui est l'association des producteurs bio donc du département du Rhône et du département de la Loire. Et donc je m'occupe de la filière viticole. Et donc j'accompagne les gens qui soit veulent passer en agriculture biologique, donc en viticulture biologique, et j'accompagne aussi tous les vignerons qui sont déjà en agriculture bio, en leur organisant des formations, en les suivant un peu techniquement. Et l'idée c'est que les expériences des gens qui sont en viticulture bio depuis longtemps puissent être échangées avec les gens qui démarrent ou qui sont dans l'idée de se dire comme je travaille en ce moment, ça me plaît pas. J'aimerais bien aller vers l'agriculture bio. Donc l'idée, c'est que je fasse l'animateur et j'essaye d'organiser un peu les échanges entre les gens. Et avant de travailler pour l'ARDAB, moi j'étais conseiller agricole. Donc j'étais toujours animateur, conseiller technique auprès des viticulteurs. Et je suivais des gens qui étaient en conventionnel, hein, qui étaient aussi beaucoup de gens qui étaient en agriculture bio. Et il y avait des petites choses qui m'interpellaient, qui m'interrogeaient sur notamment la gestion des sols, parce que finalement, quand moi je suis pas forcément issu du milieu agricole directement, c'est un petit point technique, mais c'est pour expliquer un peu la démarche de mon voyage. C'est que bah, aujourd'hui, dans certaines conditions, sans herbicides, c'est compliqué. Et notamment les zones où on mécanise pas beaucoup, où il y a beaucoup de pentes. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que les vignobles, ils existent, mais grâce finalement un petit peu à l'utilisation des herbicides. Et du coup, moi, je me disais, bah, demain, si on doit plus utiliser des herbicides, comment on fait? Quelle solution on a? Quelle solution on peut apporter et comment font les gens qui finalement, depuis longtemps parfois, l'ont soustrait de leur itinéraire technique. Et le deuxième élément qui m'intéressait, c'était, on parle beaucoup des vins nature, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui voudront en parler un petit peu, peut-être qu'ils ont des expériences de dégustation ou autre, et même si le terme nature ne définit rien en fait, parce que chacun peut y mettre derrière ce qu'il veut, mais en tout cas, il y avait l'idée de ne plus utiliser de soufre. Alors, moi, je m'interrogeais justement à comment travaillaient les gens qui n'utilisaient pas de soufre ou qui, du moins, essayaient de ne pas utiliser d'intrants pour vinifier. Donc, l'idée, c'était de partir un peu naïvement. Alors, évidemment, avec mon bagage technique, c'est mon boulot de tous les jours d'accompagner les vignerons, donc je sais à peu près de quoi je parle. Mais en tout cas, c'était de partir de façon assez naïve et d'aller à la rencontre des gens et des vignerons un peu au hasard, ou le hasard un peu orienté, ou carrément le rendez-vous pris très longtemps à l'avance, pour essayer soit de partager quelques heures ou quelques jours, des fois, avec les vignerons, pour essayer de comprendre quelle était leur démarche, et savoir comment ils travaillaient. Donc la première des choses, c'est est-ce que parmi vous, quelqu'un peut me définir ce que c'est qu'un vin bio ? Faut lever la main pour prendre le micro, je suis désolé, hein, c'est pour l'enregistrement.
Un vin sans sulfite ?
Alors est-ce que vous êtes d'accord avec la réponse ? Il y a des gens qui disent non. Bien tenté, mais en effet, ça ne fait pas forcément partie. Un vin bio peut être sans sulfite. Ou avec très très peu, mais en tout cas ça ne fait pas partie de la contrainte première lorsqu'on fait un vin bio. Alors est-ce que vin bio ça énonce d'autres choses pour vous ?
La vigne n'est pas traitée en fait avec des pesticides.
Alors la vigne n'est pas traitée avec les pesticides. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pesticide ? C'est vous voulez dire en fait un produit chimique de synthèse. Donc là c'est exact. Pour avoir le label vin bio, le raisin ne doit pas être traité avec des produits chimiques issus de la synthèse. En revanche, la vigne ayant quelques champignons ou quelques parasites qui l'agressent, eh bien, lorsqu'on est vigneron, il faut quand même garantir une certaine production qui est aussi un gage de qualité. Hein, c'est pas juste par plaisir. Gage de qualité et aussi de durabilité économique de l'entreprise. Donc, on est obligé un petit peu de contraindre ces attaques. C'est comme vos tomates qui sont attaquées par le mildiou. Hein, on est obligé de mettre un peu de cuivre. Ben, nous, c'est pareil sur la vigne. Et donc, on se contraint à ne pas utiliser de produits phytosanitaires de synthèse, mais par contre à utiliser du cuivre, du soufre, des éléments minéraux ou des substances minérales. Voilà. Et ça, par contre, c'est dans le cahier des charges de l'agriculture biologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser de produits de synthèse. Est-ce que ça vous évoque d'autres choses, le vin bio ?
Bah, c'est un terrain qui n'est pas désherbé, qui est vivant. Enfin, moi, c'est... Disons, la terre a de la vie à l'intérieur.
Donc, en effet, en agriculture biologique, on ne doit pas utiliser d'herbicide. C'est-à-dire qu'on essaye de maîtriser l'herbe quand elle est là et qu'elle contraint un peu trop notre culture première. C'est-à-dire qu'on fasse du pommier ou de la vigne. Hein, voilà, des fois, on n'a pas forcément envie qu'il y ait beaucoup d'herbe parce qu'on n'a pas beaucoup de réserves en eau ou en éléments nutritifs. Et donc on veut un peu contraindre l'herbe et on ne doit pas utiliser l'herbicide, donc on utilise d'autres techniques, notamment le griffage, en tout cas des manières mécaniques pour pouvoir se soustraire de l'herbe. Donc là je crois que Philippe pourra en parler quelques mots, mais j'en profite pour faire un lien très important par rapport à l'agriculture biologique. C'est qu'il y a un lien très fort au sol. Vous n'avez pas parlé de ce que c'est que finalement le petit logo AB qui est juste derrière. Quand vous allez sortir, vous allez le voir en gros. C'est bien sûr répondre à des critères qu'un cahier des charges a défini, mais que ce cahier des charges, il n'est pas né et pondu, arrivé un jour donné. On a dit l'agriculture biologique, c'est ça. La vinification biologique, c'est ça. On doit remplir tous ces critères. Ça a été une démarche. Et la démarche, elle est d'abord née d'agriculteurs. Ce sont les premiers à s'être fédérés et avoir essayé de mettre noir sur blanc quels étaient pour eux une certaine éthique ou un certain sens à donner à leur viticulture. Et au fil du temps, ça a donné donc le label agriculture biologique. Évidemment, ça me perturbe pour me prendre photo. Mais... Donc je faisais le lien avec le lien au sol. Hein, c'était ça l'idée première. Et que le lien au sol... Ça a été un élément, un fil conducteur pour établir ces cahiers des charges qui a toujours été très fort. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas produire une plante, un fruit, un légume qui ne soit pas issu de la terre proprement dite. C'est-à-dire que les choses en hydroponie, aujourd'hui, ne sont pas autorisées en agriculture biologique puisque le lien aux terres et au territoire doit être très fort. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que le vin bio vous évoque d'autres choses?
Alors peut-être à tort, mais de la vigne jeune. Oui, des plants assez jeunes, pas des vignes.
Donc la réponse était vigne bio, plutôt vigne jeune, c'est ça? Alors c'est dans le sens où finalement l'agriculture biologique n'existe pas depuis très longtemps, ou c'est quoi le vin bio n'existe pas depuis très longtemps, en effet, très bonne réponse, puisque ce n'est que depuis 2012 que l'on peut utiliser sur une étiquette vin biologique. Avant, en fait, on ne pouvait utiliser que la mention vin, la mention exacte, c'était issu de... Voilà. Vin issu de raisin en agriculture biologique. Merci Philippe. Donc en effet, oui, il n'y a que des jeunes vins qui sont bio, mais la démarche, elle, n'est pas forcément née en 2012, bien sûr. D'autres éléments que vous voulez dire ou des questions que vous voulez poser ? Donc, le monsieur dit, pour être en vinification bio ou en vin bio, on doit utiliser des levures indigènes. Alors, levures indigènes, donc les levures, pour ceux, je reprends juste, hein, les levures, c'est juste celles qui c'est les petits organismes qui sont dans le jus de raisin, qui transforment le sucre en alcool et qui permettent donc de faire un produit fermentaire. Et à l'origine, bien sûr, ces petites levures, elles existent sur la prune du raisin. En fait, là, je fais une petite parenthèse, mais le raisin, si le vin existe, c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, ces petites levures, elles fonctionnent très bien avec une acidité donnée, et un niveau de sucre donné. Et le raisin remplit très bien, en fait, ces deux critères. Donc, en fait, c'est un fruit qui naturellement, en fait, permet la vinification. Il y a peu de fruits, en fait, qui pourraient se fermenter complètement tout leur sucre aussi facilement. C'est vraiment l'équilibre entre la concentration de sucre et la concentration d'acidité naturelle du jus de raisin. Donc, la fermentation, c'est bien qu'il y ait toujours quelque chose qui était facile pour le raisin. En revanche, aujourd'hui, il n'est pas absolument nécessaire d'utiliser des levures indigènes pour pouvoir être certifié vin bio. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des levures qu'on a sélectionnées, sans rentrer dans les détails, et on peut les utiliser sans problème et à la fin avoir une vinification qui s'est très bien passée, sans déviation, sans autre, et avoir le label AB. Voilà, la mention levure indigène est une mention gratuite entre guillemets que les gens peuvent donner, mais qui ne répondent à aucune certification ou à aucune chose exacte. Donc j'en profite pour faire un petit rectificatif sur les vins nature ou naturels ou sans intrants. Aujourd'hui, vin biologique est une mention légale qui répond donc à une certification, à un cahier des charges précis. La mention vin nature est une mention qui aujourd'hui ne répond pas à un critère ou un cahier des charges légal, entre guillemets. C'est pas une mention interdite, mais c'est juste que derrière, vous ne savez, enfin en tout cas, ça ne répond pas à des critères très précis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent faire des vins de nature, et puis ils utilisent un tout petit peu de soufre à un moment donné. Il y a des gens qui vont être à vous dire c'est un vin nature et ils n'ont pas du tout utilisé de soufre. Ce que je veux dire, c'est que c'est un terme qui aujourd'hui n'est pas défini concrètement dans un cahier des charges et selon des méthodes bien précises. Le seul que vous pouvez et qui vous garantit, en tout cas, un travail ou une méthodologie, c'est la mention agriculture biologique. Alors, est-ce que ça vous intéresse qu'on parle un petit peu de certificateur ou de choses comme ça ? Non, ça, c'est des choses peut-être qui... Alors, j'ai une question sur la conversion. Donc, la vigne étant une culture pérenne, elle a son propre cheminement de certification. Une parcelle doit subir... Donc pendant 3 années consécutives, 3 fois 12 mois consécutifs, donc un itinéraire technique qui remplit qui suit les mentions du cahier des charges. Et ce n'est qu'au bout de ces 3 années consécutives que l'on peut utiliser le logo AB. Sachant que dès la deuxième année, en fait, on peut mettre une mention en cours de conversion. Alors, si c'est une vigne qu'on plante sur une prairie, on peut aussi lancer une conversion ou ne pas lancer de conversion si la prairie, on justifie que dessus, il n'y a jamais eu de traitement, il n'y a jamais eu de... Voilà, c'est une friche ou autre.
En fait, la vigne, ça pompe l'eau très très loin dans les sols. Donc la question que je me pose, c'est comment un vin peut être certifié bio, sachant que le mec de la parcelle d'à côté risque de traiter, et donc ma vigne, elle va aller pomper l'eau sur ce sol-là.
Alors en fait, là vous parlez d'un autre aspect, c'est que la certification bio est une nécessité de mise en œuvre de moyens. Malheureusement, on vit dans un monde interactif, on cultive nos vignes dans un milieu avec des voisins qui ne sont pas forcément, qui ne partagent pas forcément nos itinéraires techniques ou nos manières de travailler, et donc forcément l'obligation de résultat était quelque chose de difficile à obtenir. Voilà. Donc la certification, c'est bien une obligation de moyens et, tant que faire se peut, une obligation de résultat maximum. Mais bien sûr que voilà. Alors les gens essayent de s'organiser. Peut-être que Philippe pourra dire un petit mot après là-dessus, ou même maintenant.
Oui, bonjour. Donc l'organisme certificateur peut demander, si c'est trop proche, de ne pas ramasser deux reins. Voilà. Alors après, il y a la notion du sol, mais par contamination proche, l'organisme peut dire les deux reins là du bord, vous ne devez pas les ramasser. Voilà, pour limiter les risques de contamination. Mais bon, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Le fait de supprimer, dont en Alsace, parce qu'il y a des parcelles qui sont très petites, ou en Bourgogne, le fait de supprimer les deux reins du bord, vous supprimez 80% des résidus. Voilà. Oui, après le cahier des charges nous demande, ce que disait Michael, de respecter donc une certaine façon de travailler. Est-ce que c'est à nous, vignerons, de faire attention aux voisins, ou aux voisins de faire attention à nous, quoi. Ouais. Ouais, mais c'est le même problème. Enfin, voilà, on peut pas, on peut bien mettre des barrières. Pour moi, le choix de l'agriculture biologique, c'était de faire un geste. Si tout le monde fait un geste, on va dans le bon sens. Mais voilà, il y a toujours un risque. Et le risque. Après, si on a des bonnes relations avec les voisins, avec les vignerons, on a du matériel aujourd'hui de traitement qui est relativement précis. Donc si les gens ne traitent pas quand il y a du vent, ou quand en faisant un minimum de respect, il y a un risque. Mais le risque est aussi important quand vous achetez un vigneron, à mon avis, qui est en bio depuis peut-être 4 ans ou 5 ans. Et faut savoir que dans les argiles, dans les micelles d'argile, les produits restent. Donc on peut avoir des relargages 10 ans, 15 ans, 20 ans après. C'est ce qui se passe pour les désherbants avec la cimazine. Enfin, voilà. Oui. Parce que c'est les argiles qui retiennent beaucoup plus tout, qui retiennent les minéraux et qui retiennent tous les produits chimiques, quoi. Alors que dans les sables, heureusement ou malheureusement, mais ils sont lessivés.
Bon, je sais pas si ça a répondu à la question, mais voilà. Donc c'est l'obligation de résultat qui est difficile à garantir. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce que c'est que les vins bio, l'agriculture bio, je vais vous faire un petit résumé. Alors, mon diaporama est un peu long, on a un peu discuté au début. Mais, donc en fait, je suis parti pendant un an. C'est pour ça que c'est découvrir le vin bio à vélo. Je suis parti pendant un an avant de travailler pour l'Ardab, en me disant, comment finalement répondre aux quelques questions que moi j'avais en tête, donc la gestion des sols sans herbicides, comme je vous ai dit, et puis du vin sans soufre. Donc en fait, ça m'a emmené jusqu'en Europe centrale, donc au pied de l'Elbrouz, qui est le plus haut sommet d'Europe. Donc ce massif de montagne qu'est le Caucase. Alors aujourd'hui, on en entend un peu parler dans les infos, parce que malheureusement, il se passe des choses pas très sympa, juste à côté, hein, la Syrie, c'est juste en dessous, et l'Irak aussi. Et c'est une zone forcément où l'homme a commencé à se sédentariser, à faire de l'agriculture, et aussi donc a découvert ou inventer, je ne sais pas ce qu'on peut dire, parce que malheureusement, ils ne sont plus là, mais la fermentation du raisin. Dans un but, bien sûr, sûrement, de conservation. Mais en tout cas, il a rassemblé du raisin dans un grand tronc d'arbre. C'est à peu près les plus vieilles traces qu'on a dans des caves de cette zone, où on découvre que y a une telle concentration de pépins que les gens faisaient sûrement autre chose que juste les grignoter et jeter les pépins dans le même endroit. Donc voilà, c'est le berceau de la viticulture, cette zone de la Géorgie. Et l'idée, c'était de la rejoindre. Donc, en suivant tous les vignobles qui sont soit en montagne, soit en forte pente. Alors en fait, je travaillais déjà un petit peu sur les vignobles de forte pente. Et il m'intéresse à plusieurs titres parce que, en général, planter un cep de vigne quand on plante dans une pente très raide, eh bien, c'est pas juste planter un cep de vigne. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, forcément, c'est tellement coûteux que tout ce qui va avec, c'est-à-dire la gestion de l'érosion, la gestion de ce cep de vigne, faut qu'il dure le plus longtemps possible, elle est très forte. Beaucoup plus forte peut-être que dans certaines zones de plaine où la facilité, la mécanisation aujourd'hui nous permet de plus facilement arracher et replanter une parcelle. En zone de montagne, c'est quand même vachement plus difficile. Et donc, par essence, les gens ont développé en général des techniques assez simplistes, entre guillemets, pas simplistes dans le sens simple, mais en tout cas très simplificatrices. Et l'idée, c'était un peu de découvrir comment justement les gens ils faisaient pour ne pas utiliser d'herbicides, travailler de façon assez peu coûteuse et en tout cas avec toujours comme objectif de faire des grands vins. Parce que finalement, quand ça coûte cher de faire du vin, on a intérêt qu'il soit très bon parce que c'est la seule manière de le valoriser. Donc en fait, il y a une nécessité absolue dans les vignobles de coteaux, dans les vignobles de forte pente, de faire des vins très qualitatifs parce que c'est leur seule manière d'être viable dans le temps. Donc, je suis parti, l'itinéraire, c'est le petit trait rouge, que j'ai fait en vélo et en prenant le bateau, bien entendu. J'ai pas fait du pédalo. Et donc, je suis parti de la vallée du Rhône, en essayant de traverser tout l'arc alpin, ensuite de faire un petit tour en Méditerranée, pour finir donc en Géorgie. Donc, je passe, ça, c'est les trois grandes zones que j'ai traversées. Donc, en suivant ces deux éléments, donc l'entretien du sol en situation de pente et le rapport entre l'oxygène et le vin, qui est en fait lié à l'utilisation du soufre et des sulfites. Notamment, pas que, mais notamment. Donc, c'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que donc la vigne en situation de forte pente, la seule manière de la rendre viable, c'est son originalité et surtout sa qualité. Donc je vous ai mis quelques photos de vignobles. Donc ça, c'est les photos sont dans l'endroit où il y a le petit cercle jaune. Donc là, c'est les Côtes du Rhône, donc tout près d'ici. Donc le vignoble de Côte-Rôtie et de Condrieu. Et donc l'idée c'était que quand j'essayais de répondre à ces deux questions. Ce sont plutôt les gens qui étaient soit en bio, soit en biodynamie, qui finalement s'étaient déjà posé la question et avaient des réponses à m'apporter. Donc ça a été un peu un hasard un peu provoqué, tout au long de mon voyage, ce sont des gens qui étaient en agriculture bio ou en biodynamie que j'ai pu croiser. Donc on retrouve, suivant bien sûr, les contraintes sont différentes suivant les vignobles dans lesquels on se trouve, parce que la pluviométrie n'est pas la même, parce que les sols ne sont pas les mêmes, donc forcément la réponse à la pluie par rapport au sol n'est pas la même. Et malgré tout, chaque région a réussi à trouver des subterfuges ou des techniques pour essayer de travailler en bio. Donc il y a des zones où on peut enherber, parce que la pluviométrie est suffisante. Et puis il y a des zones où ce n'est pas possible parce que il n'y a pas assez de pluie ou en tout cas elles sont concentrées durant l'hiver, que les sols sont des sols très filtrants, c'est donc la notion de sable et d'argile dont parlait Philippe tout à l'heure. Les sols très sableux sont des sols qui se réchauffent très vite parce que finalement ils laissent peu retenir l'eau au printemps. alors que les sols plus argileux, eux, ont plutôt tendance à mieux retenir l'eau, mais par contre, il leur faut un petit peu plus les travailler ou les tenir de manière différente. Donc, l'idée, c'était aussi de voir que la technique est toujours liée forcément aux contraintes que le sol nous impose et que la climatologie nous impose aussi. Donc ça, c'est la Suisse, au nord du lac Léman, qui est une zone très pluvieuse. Voilà, ça c'était la petite blague pour voir que les Suisses optimisent tellement leur surface que même les bordures de train sont aussi plantées en vignes. Je me disais que peut-être un jour la SNCF sera le plus grand vignoble de France. Ça c'est le côté de l'autre côté du Mont Blanc, donc dans la vallée du Val d'Aoste. Donc là, les photos d'avant c'était plutôt la partie suisse. Et donc là, c'est la partie du Val d'Aoste. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, à quelques kilomètres, ou en tout cas quelques dizaines de kilomètres à vol d'oiseau, les gens n'ont pas répondu de la même manière à ces deux contraintes. C'est-à-dire que dans un cas, en Suisse, les gens ont planté très serré, c'est-à-dire qu'ils plantent des ceps de vigne de manière très très serrée pour optimiser l'espace au sol. Donc ils ont un petit peu plus de mal à travailler les sols. En revanche, les Valdotins, eux ont répondu à la même problématique de la pente en faisant au contraire des plantations très peu denses. Et en fait, ça s'explique par le fait que, à qualité de vin égal, les Valdotins avaient pas forcément de zone pour faire des cultures maraîchères. En Suisse, ils avaient les fonds de vallée pour pouvoir cultiver des fonds de vallée assez bien irrigués pour pouvoir cultiver le maraîchage, pour faire du maraîchage et donc des cultures premières plus importantes que la vigne. La vigne, c'était pour gagner de l'argent et les cultures maraîchères, c'est pour pouvoir se nourrir, ce qui est quand même une différence notable. Et dans le Val d'Aoste, en fait, les gens faisaient des pergolas. Je crois qu'il y a des photos juste après. Bon, ça, c'est l'histoire des pergolas, c'est juste de dire que finalement les gens, par exemple, ça c'est en Suisse. Donc les pergolas du Val d'Aoste, c'était que les gens cultivaient au sol leurs carottes, leurs salades, leurs cultures printanières, et dans un deuxième niveau, utilisaient la vigne en fait comme canopée. C'est-à-dire que quand la vigne avait recouvert toute la surface et qu'il n'y avait plus de lumière qui arrivait au sol, ils récoltaient leur salade ou leur carotte ou leur produit maraîcher, et ça leur permettait en une seule fois d'optimiser. Ils ramassaient de quoi manger et surtout ils enlevaient toute l'herbe qui avait poussé sous la vigne, ce qui fait qu'il n'y avait plus de concurrence ensuite. La lumière étant captée par la vigne, c'est pour la canopée superficielle, il n'y avait plus de lumière au sol, donc plus de possibilité aux plantes de pousser. Donc ça c'était pour illustrer le deuxième petit fil conducteur que j'avais dans mon voyage, c'était d'essayer de ne pas utiliser autre chose que mon vélo pour me déplacer. Et puis de relier en fait les deux plus hauts sommets d'Europe, donc le Mont Blanc, que j'ai pu faire, puisque là la photo c'est au sommet du Mont Blanc, et rejoindre donc le Caucase et le vrai plus haut sommet d'Europe, le Elbrouz, à travers ces vignobles de pente. Donc j'ai continué toujours plus vers l'est pour traverser et donc à chaque fois rencontrer les vignerons et discuter un peu avec eux et voir comment ils travaillaient. Voilà, donc là c'est illustre différentes techniques et différentes réponses à la pente. Là c'est Monsieur Triaca dans un petit vignoble qui s'appelle la Valteline et qui du coup a développé un système dit de harpe où en fait il oblige la vigne qui elle naturellement étant une liane va toujours vers le haut. Il oblige la vigne à courir le long d'un talus et c'est pour le même principe que la pergola. Le talus étant recouvert par la vigne, eh bien, il n'y a plus de lumière qui vient au sol, donc finalement l'herbe ne pousse plus sur le talus. Comme ça, il a répondu à la question de comment je gère le problème du talus. Donc ça, c'est juste quelques images pour illustrer ce qui m'a occupé beaucoup de temps dans mon voyage, tout au moins au début. La pioche. Parce que forcément, quand on n'a pas d'herbicide, il faut piocher, donc c'est forcément plus long. Donc la pioche, en fait, elle passe après le travail qu'on appelle de déchaussage ou de griffe. Ça permet en fait d'enlever manuellement et d'aller au plus près du cep pour enlever au mieux toutes les herbes qui pourraient rester. Donc l'agriculture biologique, bien sûr, ne s'interdit pas l'utilisation de matériel motorisé et brûlant du gasoil. Hein. Voilà un exemple de pergola dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc la pergola, évidemment, après, hein, la vigne, on peut la faire pousser un peu comme on veut. Donc il y a des extrêmes, donc là il y a même pas 3000 ceps pour un hectare, donc un hectare ça fait 10 000 mètres carrés. Pour vous donner une petite référence, quand vous allez en Bourgogne, si vous voyez les vignes qui sont dans les coteaux, c'est du 10 000 pieds hectare, c'est-à-dire qu'un cep de vigne occupe un mètre carré de terrain. Voilà. 10 000 pieds pour une surface de 20 hectares. Voilà, ça fait un cep pour un mètre carré. Là, on est plutôt un cep pour 30 mètres carrés, voire plus. L'idée de toutes ces photos, en fait, c'est de vous montrer que la pente, on peut y répondre par différentes manières, que chacun, selon ses contraintes de vignoble, parfois de tradition, eh bien, on va développer une technique en particulier, mais qu'en tout cas, il existe beaucoup de choses. Et moi, l'idée, c'était de me dire, bah, si on doit plus utiliser d'herbicides demain, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné peut-être mécaniser un peu, parce qu'il faut être aussi efficace et rapide quand on doit intervenir pour après une pluie ou juste avant une pluie pour lutter contre le mildiou, par exemple. Ben, finalement, là, une des bonnes réponses, c'est d'avoir un peu d'espace au pied du cep. Et que quand on n'en a pas, finalement, c'est pas forcément très facile d'être réactif. Même si dans certains vignobles, si vous allez sur le coteau d'Hermitage ou si vous allez en Saint-Joseph ou en Côte-Rôtie, les gens arrivent, tant bien que mal, à essayer de travailler malgré la densité des ceps qui est très forte et qui limite le passage des engins. Mais ça impose beaucoup de main-d'œuvre et donc aussi un coût de production très élevé. Donc ça, c'est en Italie, et les Italiens aiment beaucoup le système dit pergola. Voilà. Et donc là, c'est un domaine qui, en fait, vinifie tout en amphore fait un type de vinification particulière où ils essayent de faire macérer l'intégralité du raisin très très longtemps, bien au-delà de la fin de la fermentation, c'est-à-dire du moment où tous les sucres ont été transformés en alcool. Eh bien, voilà, les gens essayent de faire durer cette macération, ce contact entre le vin et la pellicule, de façon très longue.
Du coup, est-ce que ça veut dire que ces vignes italiennes produisent moins de raisins par hectare que quand c'est plus dense en Bourgogne, ou juste c'est pas les mêmes espèces, c'est des espèces qui ont de vignes qui ont besoin de plus de place? Et est-ce que ça veut dire que c'est plus facile de faire du bio dans des conditions comme là-bas qu'ici?
Alors, très bonne remarque. C'est forcément un petit peu plus simple quand on a de l'espace au pied d'un cep. Et en effet, il y a aussi un effet cépage, c'est-à-dire que suivant le cépage qu'on cultive, il est plus ou moins capable de faire beaucoup de végétation, de supporter beaucoup de récoltes. Et en effet, il y a des cépages qui sont plus adaptés à la très faible densité et des cépages qui, au contraire, ont un peu plus de difficultés. Et en plus, forcément, la sélection est dense, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, les gens ont plutôt sélectionné, quand ils étaient en très forte densité, plutôt des cépages ou des ceps qui ont un petit peu moins cette capacité très forte d'expression végétative. Et donc, si on les passe cela directement en très très faible densité, on va pas retrouver les mêmes caractéristiques. Mais il y a beaucoup de cépages pour lesquels c'est juste une question de sélection, en fait. Bon, là, c'est les photos, c'est un autre vignoble qu'on retrouve aussi en Italie, les Cinque Terre, qui sont au sud de Gênes. Un très très beau vignoble où justement il y a des petites terrasses et des petites pergolas qui permettent, en fait, lorsque la vigne a utilisé ses pergolas, il n'y a pas d'herbe qui pousse en dessous, et eux, ça leur permet en fait de venir grapper, de ramasser les grappes juste en se baissant dessous, voilà, au lieu de ramasser les grappes sur des rangs qui sont donc verticaux, les rangs, on va dire, qui sont horizontaux. Voilà quelques illustrations. Et ça, c'est en fait, c'est tellement pentu là-bas qu'en fait, ils utilisent ce qu'on appelle les crémaillères, c'est-à-dire que c'est un tube crénelée comme ça avec un petit moteur thermique, un petit moteur qui entraîne une roue et la roue elle permet comme un petit train de monter et de descendre, ce qui permet de descendre, monter les outils et puis surtout la, sortir en fait la récolte de ces pentes très fortes. Donc je vais aller un peu plus vite là parce que on a beaucoup, il nous reste plus beaucoup de temps, mais là c'est plus des photos qui illustrent moins des zones de forte pente, mais en tout cas des zones très contraignantes. On trouve ça en Croatie, sur quelques îles, où les gens ont développé des cépages, notamment qui supportent très bien les conditions assez extrêmes. Notamment là, c'est des vignes d'un cépage qui s'appelle le Plavac Mali, qui est en fait l'ancêtre d'un cépage que peut-être vous connaissez, le Zinfandel, qui est un rouge un peu sucré qu'on retrouve parfois en Allemagne, parfois... des vins qu'on a pu importer de Californie. Et donc j'étais retourné en Italie pour travailler dans un domaine qui est un domaine en biodynamie et qui n'utilise absolument aucun intrant. Et l'idée, c'était voilà, de bosser et de faire les vins et de voir un peu comment ça marche. Donc voilà, nous voilà à l'œuvre. Encore une fois, vin même biodynamique, vin nature, on ne se soustrait pas à l'utilisation... de la technique, hein, je crois que c'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire que quand on veut faire des choses le plus naturel possible ou bio, ou c'est difficile d'utiliser un bon terme, mais en tout cas, c'est surtout pas du non-interventionnisme, au contraire, c'est plutôt de l'ultra-technique, c'est-à-dire ultra-technique dans le sens de bien comprendre les choses et vraiment bien les suivre. C'est pas l'idée d'appliquer systématiquement telle ou telle technique, c'est vraiment d'essayer d'optimiser le raisin qu'on a et d'essayer d'en faire quelque chose de vraiment beau en le respectant à la base. Voilà. Et comme toujours, moi je dis la proportion 70-80% vient de ce qu'on a fait à la vigne et ce qu'on fait à la cave, c'est vraiment juste de l'optimisation. C'est vraiment le chef cuistot qui vient optimiser et respecter au mieux la délicatesse de ce qu'on a pu travailler avant à la vigne. Donc quelques photos de Grèce où il y a également des vignobles originaux assez extrêmes. C'est sur l'île de Santorin, peut-être certains sont allés, où en fait il y a tellement de vent que en fait on taille la vigne en forme de panier pour que les raisins sont à l'intérieur soient protégés à la fois du vent parfois salin et surtout très sec, et du coup ça lui permet en fait de se protéger. Et donc, on le sait pas toujours, mais la Turquie produit du vin. Et sûrement peut-être avant nous, puisque sur la route, parce que moi j'ai remonté un peu la route, hein, mais entre la Géorgie et la vallée du Rhône, forcément il y a sûrement eu le passage par la Turquie. Donc là, ce sont un autre système de conduite très simple où en fait les Turcs laissent courir les rameaux sur le sol et c'est ça qui en fait fait qu'il n'y a pas trop d'herbes qui poussent. Voilà. Donc là, tous les points qu'on voit, hein, ce sont des ceps de vigne partout. C'est dans la région des Cappadoces au centre de la Turquie. Très connu pour ses maisons troglodytes, mais souvent beaucoup moins pour ses vignes, alors qu'elles sont très jolies. En fait, il les enterre parce que c'est une région très froide où on peut facilement atteindre les moins 30 et du coup, la vigne étant sensible au froid, il y a un moment... Voilà. Donc c'est là le mont qui est derrière, c'est le mont Ararat, donc là où se serait échoué l'Arche de Noé. Et donc j'arrive en Géorgie où j'ai fini mon périple, donc là les montagnes du Caucase. Et où on trouve une très forte culture viticole. Les Géorgiens sont très 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 fiers de leur culture viticole et ils font tous leur vin. En fait, il y a des vignes vraiment partout. Et même au plein cœur de la capitale, Tbilissi, tout le monde a un oncle, quelqu'un de sa famille qui a une petite cave dédiée à la vinification. Et la grande fierté d'un Géorgien quand il nous invite, c'est qu'il nous fasse goûter son vin. Et il y a rien de plus j'ai perdu le mot, mais il n'y a rien de plus offensant pour un Géorgien, c'est que d'amener une bouteille pour lorsqu'on est invité. Pour lui, c'est vraiment, ça veut dire qu'en gros, on sait que son vin n'est pas bon, donc c'est vraiment très frustrant et très très offensant pour lui. Voilà. Et toutes les occasions sont bonnes pour trinquer et chanter. Les Géorgiens sont des très très grands musiciens aussi et très bons chanteurs. Voilà, ça c'était. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur le voyage ou sur d'autres éléments, mais sinon, voilà ce que je pouvais raconter de la viticulture bio ou du vin bio. Voilà. Alors avant, merci. Mais je ne sais pas si Philippe, tu veux rajouter un petit mot sur ton témoignage de vigneron bio ou de voilà. Ouais. Bien. Bon, juste 5 minutes pour que voilà, ce soit autre chose que mon voyage et que ce soit l'occasion d'avoir un vigneron et qu'il explique un peu sa démarche. Ouais.
Donc bonjour, j'avais déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Philippe Grenier, domaine des Amphores. On est en viticulture bio depuis 2002 et on a créé l'exploitation en 1994 dans l'objectif de passer en bio. Voilà, et donc on a les appellations Saint-Joseph, Condrieu et puis des vins de pays. Donc la démarche bio, c'était la volonté de vouloir faire quelque chose pour l'environnement et pour nous aussi, bien sûr, mais être moins en contact avec les produits. Et puis essayer d'avoir une réflexion et de ne pas appliquer une règle. Pour les traitements, à telle date on fait telle chose, voilà. Et essayer d'avoir des alternatives. Donc aujourd'hui, on utilise différentes techniques, le griffage, du désherbage thermique, de la pioche, du treuil, tout ce qu'on peut, du paillage aussi, suivant les parcelles, suivant l'âge des vignes, suivant la pluviométrie de l'année, le rendement qu'on cherche aussi dans les parcelles. Donc on travaille. L'objectif, c'est quand même de faire vivre le sol pour que le sol puisse faire vivre la plante. Et suivant les rendements qu'on demande, on va plus ou moins concurrencer la vigne et pour avoir un niveau de concentration qu'on souhaite suivant les vins. Voilà. Ouais. Donc, au niveau de la cave, c'est vrai que ce que disait Michael, c'est... de vraiment utiliser toutes les techniques, c'est-à-dire qu'on peut utiliser le chauffage, il faut chauffer, il faut refroidir à certains moments, parce que c'est là que c'est important pour favoriser le développement de tel et tel micro-organisme qui va faire évoluer le vin, parce qu'il y a plusieurs fermentations, il y a la fermentation alcoolique qu'on tout le monde connaît, et il y a une fermentation qui est faite par des bactéries qui transforme un biacide en un monoacide, et c'est la fermentation monolactique. Et ça, on sait que sans forcément apporter des bactéries, on sait que les conditions qu'il faut pour les développer. Et c'est là que ça devient important. Et puis aujourd'hui, le gros avantage qu'on a par rapport à il y a même 20 ans en arrière, c'est qu'on a des analyses plus précises, beaucoup moins chères. Elles se sont vulgarisées. Et aujourd'hui, on peut vraiment suivre l'évolution des vins. Pour éviter tout un tas de déviations avec des résultats très rapides, quoi. Et c'est ça qui nous fait évoluer aujourd'hui sur la vinification et qui nous donne les moyens d'utiliser le moins possible d'intrants ou de levures ou le SO2 ou voilà. Non, c'est des analyses avec du matériel qui est quand même très performant pour faire des comptages de bactéries, de levures, c'est du matériel qui coûte très cher. Sur une analyse de vin, on va demander 4-5 critères couramment, 3 minimum, jusqu'à 7-8. Et il y a des choses où on mesure, pour caractériser les levures ou certaines bactéries, on va dans l'ADN. Donc ça, c'est pas possible. Nous, on peut pas le faire. C'est des analyses aujourd'hui qui coûtent cher, mais qui nous donnent vraiment... où on sait où on va. Voilà.
Moi, j'ai une question pratique. Est-ce qu'on peut aller sur votre domaine en vélo depuis la Via Rhôna ou pas, pour acheter des bouteilles, hein?
Oui, c'est possible. Mais La Via Rona est à 150 mètres d'altitude et le domaine est à 350, il y a 4 km. Voilà.
Bon, bah, si vous avez d'autres questions, de toute façon, vous restez peut-être un peu dans le coin. Voilà, petite carte pour aller vous visiter. Voilà, merci à tous. Bonne journée.